Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
J'ai mon mari aujourd'hui, par exemple, lui, quand il fait les courses, c'est le contraire de moi. Lui, c'est Paris Hilton, je l'appelle, tu vois, quand on fait les courses. Il regarde pas les prix. Genre, il voit la plus belle boîte de sardines. Elle coûte 10 balles, il n'a aucune idée qu'elle coûte 10 balles. Il l'a mis dans son panier, tu vois. Mm. Mais moi...
Il kiffe.
Mais, ah oui, kiffe, ouais.
T'as l'air d'accord. Ça crée des tensions entre vous ?
Non, franchement, on en rigole.
Ouais. Aujourd'hui, t'en rigoles ? Est-ce que t'en rigolais avant ?
Depuis le début. Okay. Non, depuis le début, j'en rigole toujours.
Non, parce que si t'as un rapport tendu à l'argent, ça peut créer une vraie tension chez toi, quoi, tu vois ?
Non, mais disons que je fais un tri-count, quoi.
Tu fais un tri-count ?
Bah oui.
Avec ton mari ?
Bah oui.
C'est-à-dire ?
Bon, on n'a pas de compte joint.
Ok.
Et quand on fait les courses, je regarde les trucs qu'il a achetés et que moi, je ne mangerai pas. Et du coup... on divise.
Quoi ? C'est incroyable.
Exécuté par
qui ?
Fabrice Florent.
Bonsoir, bonjour, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Chaque mardi et chaque vendredi à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils ? Comment ils le gagnent ? Comment ils le dépensent ? Comment ils l'appréhendent tout simplement ? Alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités, de leur intime, parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. Je fais donc parler des gens, plutôt dans des podcasts de conversation, sur divers sujets. Des pères de paternité, des mères de maternité, des célébrités de leur parcours vers le succès, des hommes de masculinité et aussi, bien sûr, des gens de leur rapport à l'argent. Je fais aussi un talk show avec ma partenaire Mimi Hegel qui s'appelle le Fab et Mimi Show. Bref, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode si vous voulez découvrir ces autres podcasts. Et d'ailleurs, si vous découvrez mes podcasts, je fais pas mal d'autres choses. Allez donc voir ça sur mon site internet fabflorent.com, fabflorent.com. Si mes podcasts et mon travail vous aident d'une manière ou d'une autre, alors vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant un don en argent sonnant et trébuchant avec votre carte bleue ou alors en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5€ par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode, merci d'avance, c'est très cool. Enfin, si vous aimez le podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre appli de podcast préféré, en particulier si vous écoutez sur Apple Podcasts ou Spotify. Et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute. Anne Lucie, bienvenue.
Merci.
Pourquoi merci ?
Bah parce que tu m'as accueilli chez toi et je suis trop contente de parler avec toi.
Avec grand plaisir. Tu m'as envoyé, Anne Lucie, un mail. Ça fait... En vrai, on s'est rencontrés il y a plus de 10 piges.
Il y a 13-14 ans.
T'as été l'une des premières salariées de Mademoiselle, en fait, à l'époque, il y a fort longtemps.
Ouais.
Et tu m'as envoyé un mail adorable pour me dire merci pour tout, le podcast, etc. Je ne sais même pas si tu te souviens de moi et tout. Bien sûr, je me souviens de toi. On a quand même bossé pendant un an ensemble. C'est quand même bizarre. Et tu m'as expliqué que toi-même... Alors, c'est très bizarre parce que tu m'as expliqué une anecdote par rapport au boulot et la raison pour laquelle... On ne se séparait pas en très bons termes, je crois, à l'époque, hein, et notamment pour des raisons...
D'argent, non ? Bah dis donc, c'est très bizarre.
L'histoire de ma vie.
Spéciale dédicace aux gens qui ont écouté ton podcast sur ton histoire.
Ouais, voilà. Bah, je crois que je donne un peu les grandes lignes de à quel point j'étais stressé comme ça et tendu.
Ouais.
Et en disant que toi-même, t'étais toi-même aussi stressé et tendu par rapport à l'argent, donc...
Bah oui, bien sûr.
Un salarié et un patron stressés par rapport à l'argent.
Ça fait des étincelles.
Ça donne pas des bons trucs.
Ouais.
Alors, je sais pas si t'auras envie d'en parler ou pas, mais tu m'as raconté une anecdote dont j'avais complètement oublié l'existence. Là, pour le coup, reparlera après. Mais ça me fait trop plaisir que tu sois là et que tu viennes nous parler de ton rapport à l'argent. Qu'est-ce qui fait que est-ce que déjà tu t'écoutais mes autres podcasts avant ou juste t'as découvert mes podcasts par Histoire d'argent ?
Eh ben ouais, j'ai découvert par celui-ci.
Ok.
Mais je pense que c'est le destin. Hein.
C'est, doit y avoir... c'est le destin.
Bah ouais, doit y avoir. Parce que ouais, je sais pas. Mais en vrai, j'en ai écouté certains de Histoire de succès, de Histoire de daron ouais. aussi. Mais vraiment, Histoire d'argent, c'est mon préf et je le saigne quoi. Vraiment, je l'écoute tout le temps.
Et pourquoi ?
Genre là, j'ai fait Paris-Nice, j'ai fait 6 heures de train, j'ai écouté 6 heures d'épisodes que j'avais pas écouté, tu vois.
Ah ouais.
D'ailleurs, la V2 avec Christian Junot, tellement bien.
Tu veux dire la suite ouais. de oui.
Tellement bien.
On
j'ai
va,
trop aimé
on
cet épisode.
On va faire une V3 avec Christian.
Ah, trop bien. Bah franchement, en plus, j'adore écouter les Suisses parler.
Ah oui. À cause de l'accent.
Ouais. C'est un gros kiff, j'adore. Mais vraiment super intéressant, j'ai trop aimé.
Ouais, c'est cool. Christian Junot, donc pour celles et ceux qui ne l'ont pas, qui écoutent pour la première fois, c'est un épisode auquel je fais référence très régulièrement, qui est en gros le tout premier épisode d'Histoire d'argent, parce que Christian fait, en gros, il est spécialiste de la relation à l'argent depuis des années. Et c'est vraiment globalement le travail qu'il fait a vachement inspiré mon travail, au point où je me suis formé avec lui et désormais je suis spécialiste de la relation à l'argent.
Ouais.
Bref. Qu'est-ce qui fait que ce podcast, tu le saignes, comme tu dis ?
Ben, franchement, je sais pas, mais ça me passionne d'écouter les histoires d'argent des gens et les différences énormes qu'il y a entre telle et telle personne. En fait, on a tous et toutes un rapport vraiment spécial et dans des nuances incroyables. Et du coup, ça fait découvrir un panel de trucs. Moi, vraiment, il y a des choses qui sont tellement éloignées de ma vision de l'argent que je les découvre en écoutant ce podcast et je me dis « What ? Ça existe, des gens comme ça ?» Et franchement, ça enrichit ce que tu penses, quoi. C'est trop bien.
Ouais, c'est cool. Hein.
Grosse ouverture, c'est vraiment trop intéressant.
Bon, bah, trop cool. C'est exactement à ça que ça sert, à mon sens, les podcasts. Et surtout, en fait, les interviews un peu longues, parce que ça te permet de pouvoir pas simplement... comprendre ce que les gens sont en train de penser, mais surtout comment ils en viennent à penser comme ça, en fait. Ça vient amener... Toi-même, t'as une relation à l'argent.
Bah ouais, bien sûr.
Dont tu viens parler.
Ouais, allez.
Comment tu la définirais, ta relation à l'argent ? Parce que pour le coup, dans ton mail, tu m'as pas beaucoup raconté. Tu m'as juste
mais
dit
oui.
que t'écoutais.
Mais oui, je t'ai écrit ce mail en te disant « Merci pour ce podcast, je l'adore, il est trop bien, je le conseille à tout le monde. Ça me fait chier. » Qu'on se soit, il y a 13 ans, séparés, entre guillemets, disputés pour... enfin, clashés, je sais pas, pour une histoire d'argent. Et que du coup, c'était un peu l'ironie du sort qu'aujourd'hui, la personne qui me fait vachement avancer par rapport à l'argent, bah justement, c'est toi. Et oui. Je trouvais ça assez cocasse et je trouvais ça cool d'en discuter. Mais je t'ai aussi écrit que je t'écrivais pas pour passer sur le podcast.
Ouais, je sais.
Donc,
tu sais, des gens qui m'écrivent pour pas passer sur le podcast.
Il y en a plein.
Il y en a plein. Et en fait, souvent, c'est aussi une façon de dire, si jamais c'est possible, n'hésite pas, mais qu'ils osent pas trop. Est-ce que c'est un peu ton cas ?
Franchement, je te dis...
Inconsciemment.
Je te dis la vérité, j'ai eu toujours très très peur de faire des podcasts. On m'en a proposé plusieurs ces 2-3 dernières années et j'ai refusé toutes les propositions.
Okay.
Donc c'était pas...
Pourquoi ?
Parce que j'ai peur, je pense que c'est un peu un truc de contrôle, MDR,
ouais.
de me dire que c'est pas moi qui fais le montage, que c'est pas moi qui héberge le truc, et que du coup, si un jour je suis plus d'accord avec un truc que j'ai dit, qu'il y a un truc qui reste sur Internet que je peux pas effacer. Ça va loin peut-être.
Non, c'est très compréhensible. Le
voilà.
Fameux droit à l'oubli, là. Mais ah oui, ok, je comprends.
Alors que je partage beaucoup de choses sur les réseaux.
Mais c'est chez toi.
Mais c'est chez moi. Et les vidéos YouTube, c'est moi qui fais le montage. Et c'est vraiment...
T'as la main dessus.
Voilà, c'est ça.
Le contrôle.
Ouais, ouais.
T'as la sensation que t'as un peu le même rapport à l'argent à base de contrôle ou...
Peut-être.
C'est quoi ton rapport à l'argent ? En fait, si je te dis argent, moi, on va rentrer dans l'interview, mais en gros, si je te dis argent, qu'est-ce que ça te renvoie ?
Alors, évidemment, j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Et c'est un peu... C'est un peu un truc qui va pas trop ensemble. Mais je dirais un peu la zénitude, tu vois, le calme, le fait de me dire que en fait je suis cool, enfin je suis chill en fait dans un peu toutes les situations si j'ai de l'argent.
Ok.
Voilà, l'argent égale chill pour okay. moi. Voilà. Paradoxalement.
J'ai l'impression que c'est pas aussi simple que ça, mais oui.
Voilà, paradoxalement, pour ce qui est d'en gagner, je suis pas chill du tout. Donc voilà.
Tu veux dire que quand il s'agit d'aller chercher de l'argent pour toi, c'est plus complexe.
Pas forcément d'aller le chercher. Ça, j'y arrive beaucoup mieux bizarrement depuis que je suis à mon compte.
Ouais, on va en parler.
Que quand j'étais salariée. Mais.
Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alors, ça veut dire quoi?
Quand
il s'agit d'en gagner, c'est plus complexe.
Ou plutôt de le gérer, de le garder, etc. C'est un petit peu plus ça.
C'est pas pareil. Parce que gagner de l'argent, c'est
une chose.
Réussir à le garder ou à le gagner ou à le gérer, c'est pas la même chose.
Après, je pense que j'aurais très peur de pas en gagner, tu vois. Donc, ça se recoupe un peu.
T'aurais très peur de pas en gagner, mais t'en gagnes.
Oui.
Donc,
ça va.
C'est pas une peur très fondée, quoi.
Donc, je suis chill en ce moment.
Ok. Ok. Ça va être complexe.
Désolée.
Je sens qu'Anne Lucie est pleine de paradoxes.
Ouais, un petit peu. Mais on l'est tous, non?
C'est ce que j'allais dire.
Ah, merci.
Non, je suis pas en train de te juger. Tu sais, je te juge pas. Hein,
ouais, je sais, t'inquiète.
On l'est tous, non? Oui. écoute, c'est quoi ton premier souvenir en rapport avec l'argent?
Alors, j'ai deux trucs. J'ai un souvenir et un qui n'est pas à moi, mais que ma mère m'a raconté.
Ok.
Genre, la première fois que j'ai dit le mot argent, ma mère l'a. Et genre, j'avais 2-3 ans. Et bon, évidemment, impossible que je m'en rappelle. Mais du coup, elle me l'a raconté. Je trouve ça rigolo. Ça t'intéresse quand même ou pas?
Bah, bien sûr.
Ok. mon père, il travaillait des fois en Belgique. Genre, je sais pas, quelques jours par mois, tu vois. Et il avait un porte-monnaie avec l'argent belge. Parce que c'était pas le même, c'était les francs quand j'étais petite. Voilà.
On a un certain âge, Lucie.
Bah ouais, c'est ça. Non. Donc, ouais, c'était...
Même pas en vrai. Jeune.
Non, j'ai 33 ans, mais ouais, c'était les francs quand même quand j'étais petite. Ouais. Et du coup...
Donc les francs belges.
Donc voilà, c'était l'argent belge, mes parents, ils disaient ça en parlant. Et un jour, mon père, il partait pour prendre son train pour aller en Belgique. Et j'ai couru après lui avec le petit porte-monnaie qu'il allait oublier. J'ai dit « Papa, margent belge, margent belge !» Parce qu'en fait, le L apostrophe, pour moi, ça n'existait pas. Et genre, c'était margent, c'était à moi.
C'était ton argent?
Ouais.
Tu l'avais piqué. Enfin, dans ta tête, tu te l'étais approprié.
Un petit peu.
J'ai dit ça, moi, désormais.
Margent belge. Donc voilà. Mais j'avais très bien intégré à peu près 2 ans et demi. Qu'il fallait de l'argent différent pour aller dans un autre pays. Et aujourd'hui, ma grosse passion, c'est de voyager et j'adore les devises.
Ah ouais?
Ouais.
Est-ce que tu...
D'avoir d'autres monnaies.
Tu les gardes chez toi et tout
Ouais, je les garde en me disant que je vais y retourner à chaque fois.
Ah.
Ouais, donc bref.
Donc t'as des petites enveloppes avec plein de monnaies différentes?
Ouais.
Du monde entier?
Pas du monde entier, mais ouais, je peux être un petit bureau de change, j'avoue.
Et t'as beaucoup d'argent?
Non, pas beaucoup. Non.
Ouais, c'est ça, c'est des devises qui te restent après un voyage.
Mais je kiffe les avoir, tu vois.
Tu veux dire, tu kiffes l'avoir en liquide? Avoir les sous?
Ouais.
les billets, les pièces
En euros, je m'en fous. Je fonctionne que en CB. Mais par contre, de l'argent étranger, j'aime trop avoir les stocker. Je sais pas pourquoi. Ouais, c'est trop bizarre.
Parce que on peut pas l'utiliser ici, donc on peut pas te le piquer, ou il y a un truc comme ça.
Ah, maybe, peut-être.
Non, j'en sais rien.
Ouais, ouais. C'est ou peut-être c'est une promesse, tu vois, de partir.
D'y retourner.
Ouais, peut-être.
Intéressant.
Bon, voilà.
Ok, et donc ton autre souvenir qui t'appartient pour le coup.
Mon vrai souvenir qui m'appartient, qui n'était pas vraiment... En fait, j'en ai été spectatrice plus qu'actrice, mais c'est vraiment un truc qui m'a marquée. Mais j'étais pas si petite, j'avais 9 ans, je pense. On était en train de marcher à la mer avec ma mère et mes frères. Et il y avait vachement de vent. Et ma mère, elle avait des billets dans sa poche. Et il y a 2 billets qui se sont envolés. Et ma mère ne s'en est pas rendue compte. Et mon frère, oui. Et en fait, il y avait un billet de 20 euros et un billet de 10. Et mon frère, il a ramassé le billet de 10. Et moi, j'ai rien fait. Genre, j'ai pas osé. Et en fait, mon frère est allé voir ma mère et il lui a dit « Maman, regarde, j'ai trouvé 10 euros. » Et donc ma mère a dit « Ah, mais c'est mon billet, je l'ai perdu !» puisqu'elle a mis sa main dans ses poches et qu'il n'y avait plus rien. Et elle lui a dit « Mais il n'y avait pas un autre billet ?» Il a dit « Ouais, mais bon, j'en avais pas besoin.
» Oh, waouh.
Ouais.
Il a ramassé un billet sur les deux ?
Ouais. Et le plus petit, en plus.
Et l'autre, il l'a laissé aller ?
Et l'autre, il l'a laissé sur la plage s'envoler.
Bon, c'est pas un souvenir qui t'appartient.
C'est pas un souvenir qui m'appartient, mais enfin.
Qu'est-ce que t'en as?
Mais moi, j'ai pas ramassé non plus, tu vois.
Bah oui.
Mais pourquoi?
Tu sais pas?
Non.
T'avais l'impression que ça t'appartenait pas?
Peut-être. J'ai pas osé, alors que je savais que c'était à ma mère. Et j'aurais pu lui rendre, tu vois. Mais mon frère, lui, il l'a pris vraiment dans le but de s'acheter un chair de poule, tu vois.
Mais. En fait, quand il va le voir et qu'elle lui dit et qu'il lui dit maman, j'ai trouvé 10 balles, c'est pas pour c'est pas pour lui rendre.
Ah non, c'est genre
pour l'arnaque.
C'est un peu... Non, je sais pas si lui-même, il était plus petit que moi, donc je sais pas si lui-même il avait capté que c'était à ma mère.
OK.
Mais genre maman,
toi, t'avais
regarde.
Capté que c'était à ta mère.
Ouais.
OK. Et tu t'es pas donné l'autorisation d'aller le ramasser.
Non.
OK. Et cet argent est perdu ?
Bah du coup, ouais.
Ah ouais.
Ouais.
OK.
C'est bizarre comme souvenir.
C'est... Ouais. Non, c'est pas bizarre dans l'absolu. C'est juste... c'est étonnant que tu t'as essayé d'analyser un petit peu pourquoi t'es pas allé ramasser cet argent avec le recul, là, maintenant que t'écoutes le podcast et tout, tu vois.
Ouais. Bah, je sais pas, peut-être un truc de petite fille, de dire c'est pas à moi, d'avoir super peur de, je sais pas... voler quelqu'un, fouiller dans les poches, piquer de l'argent aux parents, tu vois, un truc un peu comme ça.
C'est un truc dont, avec lequel t'étais pas à l'aise, parce qu'il y a, il y a plein de gens, en fait. T'as écouté, si t'écoutes le podcast, il y a des gens qui piquaient de l'argent.
Ouais.
Moi, le premier, je piquais de l'argent à ma daronne.
Ouais, ouais. Non, moi, ça me mettait... J'avais peur de ça.
T'avais peur de prendre de l'argent ?
Ouais, ouais. Je trouvais que c'était pas bien, tu vois.
Okay.
Mais j'avais vraiment un truc de petite fille modèle aussi, un peu, quand j'étais petite et tout, donc...
Il fallait être dans les règles et tout ?
Un peu, ouais. Okay. Ouais, ouais.
C'est quoi c'était quoi le métier ou c'est quoi le métier de tes parents?
Alors, donc mon père, quand j'étais petite, bon, il était DRH. Et ma mère, elle est prof de philo.
Ok. Et aujourd'hui, ta mère est toujours prof?
Yes.
Ok.
Ouais. Et mon père, il est toujours un peu dans le même domaine, quoi. Okay. Mais il a changé de groupe
il a son,
et tout.
Il est à son compte, ton père?
Il n'est plus à son compte, mais c'est là tout le nœud de tout ce que je pense dans
c'est le papa.
il bossait dans un très gros groupe quand j'étais petite. Et la boîte s'est fait racheter par une encore plus grosse boîte. Et du coup, après, il est parti et il s'est mis à son compte. Et ça a été un peu un fiasco.
Ok.
Et ensuite, il s'est remis dans une autre boîte.
Ok. Et en gros, il a tenté une aventure entrepreneuriale qui n'a pas marché.
Ouais.
Et il s'est resalarié après.
C'est ça.
Ok.
Et moi, j'ai vraiment entendu toute ma vie qu'il ne fallait surtout pas se mettre à son compte, quoi.
Ah ouais ?
Ouais.
Donc, ah bah il avait quel âge quand il a tenté cette aventure de boîte, là ?
Je sais pas. Toi, t'avais 40. Quel âge ? Il avait 40. Moi, j'avais. Peut-être que je dis des conneries. Entre 40 et 50.
Okay.
Ouais, et moi, j'avais entre 10 et 20, okay. quoi. Voilà. Et ouais, c'était la merde. Il avait même une barbe et tout, quoi.
C'est-à-dire
parce qu'il se rasait tous les jours avec son costume, tu vois, avant, pour aller. Oui. Et puis là, il était à la maison, il avait une barbe, quoi.
Ok.
C'était plus la même personne.
Oui, tu veux dire que... il était un peu en dépression et tout, c'était compliqué pour lui en termes de santé mentale.
Ça a été super compliqué pour lui, je pense.
Ok.
Ouais.
D'accord.
Mais c'était vraiment un truc, du coup, on a entendu super longtemps, faut avoir un CDI, faut rester dans le même... Faut être bien gentil avec son patron.
Ah yes. Bien. Et aujourd'hui, je te spoil un peu la suite, mais en gros, t'es à ton compte.
Yes.
C'est ça.
Ouais. Après moult, okay. aventure difficile.
En salarié,
ouais, pendant 10 ans, ouais.
On va en reparler après, mais c'est quoi comment t'as la sensation que ce discours autour du CDI, j'imagine une forme de sécurité aussi, tu vois, à forger ton rapport à l'argent.
Mais franchement, ça va à un point que je pense que tu peux même pas imaginer.
Okay.
Même avec ton historique. Ouais. Avant qu'on soit né, mon père, il faisait des diagrammes pour projeter sur les années où on allait travailler les métiers qui allaient être les plus recherchés.
Oh, waouh.
Mm.
Avant que vous soyez né ?
Ouais.
Donc, 25 piges d'avance ? Ok.
Ouais. Genre, ma mère, elle est enceinte, et puis lui, il calcule à plus 20 ans. Donc, en 2000, je sais pas quoi, quels seront les métiers potentiellement les plus recherchés. Donc, en gros, on devait tous être comptables.
Ok. Ce qui est en plus totalement... Vous auriez tous dû être informaticien, ingénieur
ouais,
informaticien.
Et en plus, mon père est super geek et il est à fond, il apprend à coder et tout. Il est à fond dans l'informatique depuis le début. Mm. Mais ça, j'avoue, c'était pas dans les plans.
Bah non.
Ouais. Mais par contre, on a tous été des énormes merdes en maths.
Pourquoi ?
Bah je sais pas, parce qu'il voulait qu'on soit comptable, peut-être.
Ah oui. C'est la rébellion contre les rêves du daron.
Ah ouais, et il y a personne qui est en CDI aujourd'hui. De ses quatre enfants.
Ok. Mmh. Ah oui, ok. Mmh. Et en fait, donc, je comprends qu'il y a une idée de... Ok, on va faire en sorte de vous offrir le meilleur parcours possible. Mmh. Et en tout cas, le parcours le plus sécurisé, parce que c'est pas forcément le meilleur, hein, d'ailleurs.
Mmh.
Mais alors, en termes de petites phrases que vous avez pu entendre par rapport à l'argent en particulier...
Oh là là. Attends, j'ai pas pris mon portable, mais j'ai fait une liste quand j'étais dans le train.
Ok. Va chercher si tu veux. Oh, waouh. Une liste de petites phrases. Je crois que c'est la première fois qu'on me l'a fait. J'ai hâte.
Je crois que j'ai appelé mon document les gros dos.
Ah.
Alors. Ah oui. Alors, la première... Bon, c'est rien ça, mais la première phrase que j'ai notée, c'est « Ils font quoi ses parents ?» Bon, c'est la première question que tu m'as posée. Mais en fait, dès qu'on parlait de quelqu'un, genre à l'école, tu vois, quelqu'un qui était dans notre classe, ils font quoi ses parents ? Immédiatement.
Ok. Mais donc, en termes de salaire, de...
Pour avoir une idée, je pense, de... Ouais.
Ok.
Ça, c'est le premier truc. Une très grande phrase qu'on a beaucoup entendue, c'est « Tu l'achèteras avec l'argent de tes œufs. »
De tes œufs ?
Ouais. Alors, mon père est fils d'agriculteur.
Ok.
Et donc ses parents travaillaient ensemble dans la ferme. Et en fait, donc c'était évidemment mon grand-père qui gérait, on va dire, un petit peu tout financièrement. Mmh. Et donc, ma grand-mère, elle avait le droit d'aller vendre les œufs de ses poules au marché. Et c'était elle qui gardait cet argent.
C'est son argent à elle.
Ouais.
Son argent de poche.
Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, si elle-même, elle voulait s'acheter des trucs, il fallait qu'elle utilise l'argent de ses œufs. Donc, c'est devenu une expression familiale qui se dit dans ma famille, tu l'achèteras avec l'argent de tes œufs.
Donc, ça veut dire tu l'achèteras avec ton argent de poche.
Avec ce que tu as gagné de ton côté pour toi.
Ok. Vous travailliez quand vous étiez gamin ? Vous avez fait des petits jobs, des trucs comme ça ou...
Non, enfin moi j'ai commencé en faisant du babysitting, tu vois, classique quand j'avais genre 15-16 ans. Mais non, on gagnait pas trop, mais on n'avait pas d'argent de poche, ça c'est sûr.
Okay. Mais alors, c'était quand est-ce que cette expression était utilisée? Parce que si vous aviez pas d'argent de poche ni vous travailliez, il y a pas d'argent de ses
œufs. C'était un truc fictif. C'était pour plus tard, tu vois. Pour quand on bossera plus tard.
Ah.
Ouais, oui.
Ah ouais, donc tu arrives à 15 ans et tu te dis tiens, j'aimerais bien avoir une console de jeu. Tu l'achèteras avec l'argent de tes œufs, genre quand tu travailleras.
C'est ça.
Donc
va te faire cuire le cul.
Voilà, c'est ça. Ça veut dire un peu va te faire foutre, quoi. Ok.
Ouais.
D'accord. Et donc. Ok, donc c'est aussi une façon de dire non, mais en fait, je vais pas t'acheter ça sans le dire.
Oui, tu te débrouilles. Si tu veux ça, tu dois bosser pour.
Ok. Ok. Eh ben, next.
Alors.
T'es le premier invité qui vient avec plein de petites histoires.
Alors après, il y en a, c'est pas, tu vois, il y a des trucs, c'est pas que des phrases, mais j'ai noté un truc. Bon, je suis désolée, papa, du coup, si tu vas écouter, peut-être. Mais.
Tu l'as prévenu apparemment, hein, c'est
en
ça?
Fait, ouais, j'ai déj avec lui tout à l'heure. Le matin, quand il se réveillait, il disait la première phrase au réveil qu'il disait, c'est j'ai bien de la misère. Tous les jours. Et il mettait son costume et sa cravate et il allait travailler, et tous les matins, il disait j'ai bien de la misère. Et en fait, à la fois, il fallait vraiment travailler parce que, bah, en plus, fils d'agriculteur, enfin, tu vois, voilà. Ça, c'est vraiment un grand classique des bourreaux de travail, ouais. Etc.
Lui-même, lui, travaillait dans, pour le coup, il n'était pas dans un métier manuel, il était
pas
dans
un
DRH, il était plutôt, ouais, dans un métier de cadre.
Ouais.
Donc, il y a aussi un truc, j'imagine, chez lui, de transfuge de classe, quoi, le fameux truc de, ok, mes parents n'ont pas fait d'études, et moi, j'en ai fait, et donc,
exactement.
Il avait lui-même dans son sac à dos tous les petits cadeaux de ses parents, j'imagine.
Et ouais, il a vraiment du lourd de son côté.
Ok.
Ouais, c'est clair. Et il s'achetait des joujoux, tu vois.
Des joujoux.
Ouais, bon, pas des jouets d'enfants, mais genre quand il faisait les courses le week-end, il s'achetait des tonnes de bonbons et il s'achetait plein de CD, des barbecues. Il avait
des barbecues.
Ouais, il avait genre 5 ou 6 barbecues. Il avait 10 ordinateurs. Il achetait des trucs, en fait.
Il dépensait son argent avec des trucs pour lui faire plaisir, pour se faire plaisir lui, c'est ça?
Ouais, ouais.
Ok. En revanche, toi, tu pouvais aller l'acheter avec l'argent de tes œufs.
Voilà, bah oui, bah
lui c'était
l'argent de ses œufs. C'est ça.
Waouh, ok. Et c'était. Il vous offrait pas forcément de cadeaux à vous en tant qu'enfant. C'était plutôt des trucs pour lui. Ce qu'en plus, je juge pas, hein, tu vois. C'est...
Ouais, on.
Plutôt pour sa pomme.
On avait des trucs
moi,
un peu.
J'ai acheté un 10e barbecue, s'il te plaît. Papa, tu en as déjà 9.
Je te jure,
j'ai besoin d'en avoir un 10e, laisse-moi tranquille.
Ils étaient tous différents, mais à chaque fois, il y avait un nouveau barbecue qui sortait, qui était plus stylé que le précédent. Du coup, il a.
Barbecue, en plus, c'est vraiment le truc de. Je suis un papa, je vais vous faire des merguez avec ça, vous allez voir, ça va être super.
Ouais.
Je vais faire le papa.
Ouais,
qui
ouais.
veut un petit steak? C'est papa qui vous fait un steak avec son nouveau barbecue. C'est incroyable.
Ouais, je pense que ça le faisait kiffer, hein, quelque part. Mmh. Mais ouais, ouais.
Ok. Donc oui, en revanche, il vous achetait pas. C'est plus compliqué de vous faire des cadeaux à vous.
Bon, franchement, on avait des trucs, mais c'était un peu plus ma mère qui pensait, quoi. Si jamais ma mère lui demandait de nous acheter un truc, peut-être qu'il allait le faire. Ouais. Mais voilà, tu vois,
oui.
C'était lui spontanément pas trop, quoi.
C'était un peu pour sa pomme. Et t'es fils unique?
Hein?
Il est fils unique?
Il a un jumeau.
Ok. Ok, ok. T'as d'autres phrases ou... C'est incroyable. Le papa avec ses pleins de barbecue.
Ben non, écoute, c'était ça. J'avais mis qu'il faut avoir un CDI, surtout bien le garder, que le patron soit content. Ça, c'est bien, ça, je l'ai dit. ne surtout jamais se mettre à son compte, que c'était la pire erreur possible.
Ouais.
Du coup, pour moi, évidemment, ça a été très, très dur d'accepter de le faire. Et voilà.
Ok. Et ta mère, dans tout ça?
Et ma mère, bah j'ai noté, ma mère, 2 points, pas trop de gros dos, à part le fait qu'elle faisait gaffe aux promos, aux courses, et que du coup, je le fais toujours aujourd'hui.
Ok.
Voilà. Non, ma mère, ça va.
Quand tu dis que tu fais gaffe aux promos, est-ce que, tu sais, j'ai reçu des invités pour qui c'est maladif, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de faire, ils vont faire éventuellement 3 centres commerciaux différents.
Ah, j'ai pas entendu.
perdre un temps fou entre chaque truc pour faire en sorte d'avoir, je sais pas, 1 euro de réduction sur les yaourts, quoi.
Waouh, ok. J'ai pas entendu ça.
Bah, les gens pour qui la réduction et franchement de dépenser le moins d'argent possible, c'est un vrai truc, ils sont capables d'y passer beaucoup de temps. Et il y a parfois une dissonance entre le temps que vous y avez passé, qui en fait vous rattraperez jamais de votre vie.
C'est ça.
Et effectivement, les peut-être 5 ou 10 balles que tu as pu économiser en faisant tout ce ramdam, bah, pour eux, c'est rentable, entre guillemets, quoi. Mais t'en es à ce point ou...
Pas du tout.
Okay.
Non, pas du tout. Mais
sinon, tu t'aurais acquiescé tout de suite, t'aurais fait, mais bien sûr.
Ah ouais, non, vraiment pas du tout. Par contre, ça me fascine vachement les gens qui font ça. Mais j'en suis pas du tout là. Mais mon mari aujourd'hui, par exemple, lui, quand il fait les courses, c'est le contraire de moi. Lui, c'est Paris Hilton, je l'appelle, tu vois, quand on fait les courses. Il regarde pas les prix. Genre, il voit la plus belle boîte de sardines, elle coûte 10 balles, il n'a aucune idée qu'elle coûte 10 balles, il l'a mis dans son panier, tu vois. Mais moi.
Mais il kiffe.
Mais ah oui, kiffe, ouais.
T'as pas l'air d'accord. Ça crée des tensions entre vous ?
Non, franchement, on en rigole.
Ouais. Aujourd'hui, t'en rigoles ? Est-ce que t'en rigolais avant ?
Non, depuis le début. Okay. Non, depuis le début, j'en rigole toujours.
Non, parce que si t'as un rapport tendu à l'argent, ça peut créer une vraie tension chez toi, quoi, tu vois ?
Non, mais disons que je fais un tricount, quoi.
Tu fais un tricount ?
Bah oui.
Avec ton mari ?
Bah oui.
C'est-à-dire ?
Bon, on n'a pas de compte joint.
Ok.
Et quand on fait les courses, je regarde les trucs qu'il a achetés et que moi je mangerai pas et du coup on divise.
Quoi ? Bah, c'est incroyable.
Tu veux dire que s'il s'achète une boîte de sardines à 10 balles,
ouais.
Et que toi tu veux pas les sardines à 10 balles,
ouais.
Bah tu vas lui mettre dans son tricount ?
Bah franchement, tu me dis ce que t'en penses.
J'en pense rien.
Moi, je bois pas d'alcool et je suis végétarienne.
Ok.
Donc, en fait, il y a des trucs qui pèsent lourd, tu vois, dans les courses.
Oui.
Quand même, genre, une bouteille de vin à 15 balles, c'est un peu injuste si je bois pas de vin que je la paye, t'es pas d'accord ?
Ok.
Votez en commentaire.
Non, c'est intéressant. Tu vois, moi, je suis pas là pour juger. Hein. Juste à chaque fois, je découvre des nouvelles façons de faire, je suis là, ah ouais, ok. Donc, vous vivez ensemble.
Ouais.
Vous avez un loyer, des charges, etc. Tout ça, vous divisez par deux.
Ouais.
Mais alors, sur les courses en particulier, c'est tricount.
Ouais.
Ok. Non, mais tu dis ça comme si c'était normal, mais je te promets que c'est pas aussi simple. Hein.
Ouais.
Tu pourrais très bien te dire, ok, bon, on essaie de faire à peu près moitié-moitié. Une fois, c'est toi qui paye, une fois, c'est moi, etc.
Ouais, non.
Donc, ah, ça m'amène des milliers de questions. C'est-à-dire que. Non, mais tu vois, à partir du moment où tu fais un tricount, je me dis, autant tout passer dans le tricount. Pourquoi
ah oui,
que
on
les
passe...
courses ?
Non, on passe tout dedans, ouais.
Ah ok.
Ouais. Genre c'est moi qui paye le loyer, je le mets dedans, c'est lui qui paye EDF, il met dedans, et tu vois, on fait tout notre tout notre compte.
Vous êtes un compte tricount.
Ouais.
Ok.
Mais c'est vrai que je suis des fois pour les courses, je lui dis putain, t'abuses d'acheter ce truc à 1000 balles. Ok, bah c'est que pour moi, d'accord.
À 1000 balles ?
Ouais, c'est moi qui exagère.
Ah oui.
Des sardines à 1000 balles.
All right. Et donc, il dit, c'est que pour moi, et donc tu le mets dans le tricount.
Ouais.
Incroyable. Je découvre.
Ça fait pitié un peu, non ?
Bah... Non, parce qu'en fait, c'est un peu jugeant, je crois, quand tu dis ça.
Ouais.
C'est pas que ça fait pitié, c'est juste... C'est intéressant parce qu'il y a un côté... Mais après, je comprends, hein, si t'es dans un truc de partage équilibré, tu vois. Mais ça veut dire aussi qu'il y a un côté où vous êtes un couple, vous partagez plein de trucs, mais il y a certains trucs que tu veux pas partager.
Je trouve pas très logique, quoi.
Ouais. Non, mais je comprends. Hein. Mais tu vois, pour moi, c'est aussi ça, l'essence d'un couple, en fait. Tu vois, c'est que on est deux personnes différentes et que j'imagine qu'il fait des trucs... que toi tu l'as, ça m'intéresse pas, tu vois, et que à l'inverse tu peux faire des trucs qui, mais tu vois, c'est marrant de quand ça revienne à l'argent de venir dire ok, on va tenir la compta, quoi, tu vois. Alors que finalement un couple, pour moi, c'est deux entités, deux personnes totalement différentes qui en forment une troisième, quoi, tu vois. C'est et puis on essaie de voir comment ça marche, mais c'est trop intéressant que, en tout cas sur l'argent, il y a d'autres choses sur lesquelles vous faites comme ça.
Non, franchement,
genre
c'est
garder la compta, entre guillemets.
Non, vraiment, c'est juste les courses. Mais je pense que c'est aussi des trucs de lui avec sa famille et moi avec la mienne. Et ça fait un... On n'a vraiment pas eu la même enfance du tout, quoi.
Ouais. Il a un rapport plus détendu à l'argent ?
Non, enfin, en fait, lui, bon, bah, alors, je sais pas s'il acceptera que je...
Oui, on enlèvera ouais. si...
Mais en fait, lui, il est tunisien. Il n'est pas d'origine tunisienne. Il a vécu jusqu'à ses 27 ans en Tunisie. Et il vient pas d'une famille qui roule sur l'or du tout. Et en fait, son père, il achetait toujours le truc le moins cher possible, quoi. Et c'était vraiment tout un truc. Et lui, ça l'a toujours saoulé. Et il s'est dit, ben, quand je serai grand et que j'aurai de l'argent, et ben, je regarderai jamais le prix de ce que j'achète. Voilà.
Pas de bol, il s'est mis avec une meuf qui va lui mettre, lui dire, bah, viens voilà.
Après, moi, j'achète,
c'est dans le tricount.
J'achète pas le truc le moins cher possible, mais j'avoue que des fois, c'est, je trouve ça un peu abusé, quoi.
Et ok, c'est trop intéressant. Et en fait, est-ce que tu peux entendre que pour lui, c'est une forme de liberté? Et tu vois, de temps en temps, je parle de vie riche, tu vois, dans ce podcast.
Ouais,
je trouve ça,
ouais.
Pour le coup, lui, c'est sa vraie, c'est sa vie riche.
Exactement,
quoi.
C'est exactement ça.
Ok.
Ouais, ouais.
Mais
lui,
pour
c'est
le coup, ouais, c'est son kiff à lui, mais tu te dis, ok, c'est ton kiff, mais moi, ça l'est pas. Donc,
ouais.
Ok. Moi, ouais. C'est intéressant. C'est quoi ta vie riche à toi? Pour les gens qui l'ont pas, la vie riche, c'est vraiment ce truc de, ok, c'est quoi le truc sur lequel vous dépensez de l'argent? Vous pourriez dépenser de l'argent, peut-être que vous ne le faites pas, mais vous pourriez dépenser de l'argent de façon éhontée, mais en même temps, ça vous fait un kiff tellement incroyable que c'est cool, quoi.
Moi, c'est les voyages, à fond.
Ok.
Vraiment. Je suis obsédée par l'Asie,
okay.
Et le Japon, notamment, qui est super cher. Et je regarde pas trop à la dépense sur les voyages, parce que c'est un très gros kiff pour moi.
Ok, d'accord.
Et ma vie rêvée de ouf, vraiment, ce serait de pouvoir... vivre, tu vois, un peu en itinérance, entre guillemets,
être
genre...
digital nomade, hein.
Pas spécialement digital nomade, mais tu vois, se dire que je passe 3 ans dans tel pays, 3 ans dans okay. un autre, etc., ça me ferait vraiment super kiffer. Mais okay. lui, c'est pas du tout son truc, donc okay. Voilà.
Et donc, oui, vous avez du mal à vous retrouver là-dessus, pour le coup.
Sur la vie riche, j'avoue qu'on n'a pas la même...
Okay.
Et alors que lui, c'est très quotidien. Voilà.
Ah oui, c'est plutôt dans...
Voilà.
Okay.
Lui, c'est vraiment, tu vois, dans juste les
sardines.
Cours.
Je m'en bats les couilles.
Les sardines.
Je prends la sardine que
c'est, ça, c'est ça. En plus, les Tunisiens et les sardines, c'est un grand truc. Quoi.
Si tu le dis, je te crois. Je connais pas assez de Tunisiens pour savoir le panel de quel point les Tunisiens adorent les sardines. Mais ok.
Ouais, le poisson, quoi. Ouais.
Le poisson. Et mais donc, ouais, pour revenir un petit peu à ton... Comment dire, à ton enfance et à ton éducation, globalement, tu as eu plutôt un discours basé autour de la sécurité et un petit côté crispé, en fait, autour de l'argent.
Ouais.
Ton père qui se lève et « j'ai bien de la misère », c'est ça ?
Ouais, j'ai bien
de la misère. Cette phrase est incroyable.
Tous les jours.
Ok. Et toi, qu'est-ce que t'en as fait de cette phrase ? Quand t'étais gamine, ado, enfin, j'imagine, t'entends ton père se lever tous les matins et voir et dire « j'ai bien de la misère » avant d'y aller.
Bah, ça t'angoisse sur le travail, à fond, à fond. Et tu te dis, quand t'es enfant et que tu assistes à ça, mais jamais j'irai dans un bureau, quoi. Jamais je voudrais mettre une tenue de travail. Alors ça, pour moi, c'est l'enfer, les tenues de travail.
Tu veux dire, genre le costard et...
Ouais, voilà. Le vin pour les meufs, même le tailleur et tout, machin. L'angoisse absolue. Moi, je travaille chez moi en pyjama.
Tu fais quoi comme métier?
Du coup, je suis tarologue, je okay. tire les cartes.
C'est, ouais. C'est ton activité,
c'est mon activité
grâce à laquelle tu gagnes de l'argent.
Exactement.
Bien ouais, tu fais ça depuis quand?
Je fais ça depuis 3 ans officiellement.
Officiellement?
Ouais ouais, je suis à mon compte
oui.
vraiment depuis okay. 3 ans. Ouais.
Tu t'es lancé et
ouais.
tu veux dire, quand tu dis officiellement, c'est que t'avais
c'est
commencé...
C'est que je tirais déjà les cartes avant, mais ouais. genre, tu vois, gratos pour mes okay. potes et tout, machin. Mais...
Ok, ouais. Et donc, quand t'es rentré chez MAD, c'était ton premier job, t'avais genre 20 ans, c'est ça
C'est ça, ouais, c'est ça.
Et en gros, entre cette période-là et l'époque où tu t'es... Enfin, le moment où tu t'es lancé, t'as fait quoi?
Alors...
T'avais d'autres jobs salariés?
J'en ai fait d'autres. Et j'ai fait des études aussi. J'ai fait un master double cursus cinéma et histoire de l'art. Donc un truc très porteur pour faire des CDI et être bien comptable.
Oui.
Voilà, juste un truc qui me passionnait. Et j'ai été attachée de presse dans une boîte de mode. Voilà. C'était horrible. Ça m'a vraiment super dégoûtée du taf.
Je veux dire, c'était un peu le diable s'habille en Prada,
exactement.
c'est ça le cliché de ce film là.
Exactement. Les meufs, quand tu rentres, qui te regardent tête aux pieds comme ça et qui pouffent de rire, horrible.
Une bonne culture cool.
Affreux. Et du coup, quand de base, t'as pas envie d'aller bosser dans un bureau, parce que en vrai, chez Mad, j'avais pas bossé dans un bureau.
Bah non. Parce que en fait, t'étais à mi-temps.
J'étais à mi-temps,
t'étais
à
étudiante,
Paris.
Voilà, c'est ça.
Et Mad était à Lille à ce moment-là.
Donc tu bossais de chez toi quand tu...
C'est ça.
C'était bien avant le Covid, hein, mais on faisait déjà un peu de télétravail.
Ah, on était les grands précurseurs du télétravail. Mais oui. Ouais. Et moi, j'aimais beaucoup bosser comme ça, tu vois. Ça m'allait très bien, ce truc. Et donc, voilà. Donc déjà, t'as une peur d'aller le matin prendre le métro, dans un bureau, l'angoisse absolue. Et en plus, tu tombes sur des espèces de pestes horribles. Donc ça, ça m'a un peu fait mal. Donc, c'est après que j'ai fait le master, les études, etc., en me disant, je vais être prof à la fac. Je vais faire une thèse.
Okay.
Et comme ça, je n'irai pas bosser dans un bureau. Voilà.
Comme maman, un peu ?
Voilà, par exemple.
Il y avait une forme de sérénité. Enfin, ta mère dégageait une forme de sérénité par rapport à son travail, parce qu'on a beaucoup parlé de ton père et j'ai bien de la misère, mais ta daronne, c'était quoi son rapport au travail ?
Et ben ouais, écoute, ma mère, alors aujourd'hui, déjà c'est sûr qu'elle écoutera cet épisode, donc coucou maman.
Coucou madame.
Mais alors ma mère, quand j'étais petite, ça allait. Déjà, elle avait 4 enfants, donc elle n'était pas à plein temps. Et c'était pas du tout la même chose qu'aujourd'hui. Et j'imagine que tu sais qu'aujourd'hui, la situation des profs, c'est horrible.
Bah oui, globalement.
Ouais, mais genre, c'est vraiment de pire en pire avec les trucs Parcoursup.
Les profs, vous êtes des héros, hein, peut le dire, je crois.
Ouais, ouais.
Merci.
Mais ma mère, elle a vraiment un truc... Enfin, du coup, elle a une situation vraiment pourrie, c'est qu'elle est, elle est prof de philo. Donc, ça demande énormément de taf, de correction. Et donc, elle est prof qu'en terminale. Et du coup, c'est les bacs. Donc, en fait, elle a beaucoup de boulot qui est lié au bac, au truc de Parcoursup, etc. Et en fait, avec tous les trucs de digitalisation, machin, ça lui a doublé son taf. Et donc, en fait, plus ça va, plus ma mère est mal dans son taf. Mais quand j'étais petite, ça allait.
Mais alors, quand tu dis digitalisation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire...
Ben, tu sais, les saisies des notes en ligne, énormément de comptes rendus à mettre en ligne pour que tout le monde puisse accéder, machin. Des choses qu'elle n'avait pas du tout à faire avant.
Bah oui.
Et ça change tout.
Il n'y avait pas le NT.
Et ouais, et ils ne sont pas payés plus du tout. Donc,
oui.
Voilà.
Si j'ai bien compris, là, avec les différents contrats qu'il peut y avoir au niveau des profs, là, depuis la rentrée, il y a un moyen de...
Si tu... Pour les jeunes profs qui arrivent aujourd'hui.
Ouais, mais pour les anciens, je crois qu'il y a aussi un truc où il y a moyen de... Mais bon, il faut signer un peu un pacte avec le diable, si j'ai bien compris.
Peut-être. Et c'est potentiellement un peu ridicule aussi, éventuellement, ce qui est proposé.
En termes de sous ?
Ouais.
Oui, bien sûr. Je veux dire, on va pas non plus bien les payer. Faudrait pas déconner, quoi.
Ouais. C'est pas très utile.
Non. comme les gens qui travaillent dans la santé et tout. Oh là là.
Ouais, ouais.
Pas tant besoin que ça de l'éducation. Attention, pour la team Pomme et Degré, tout ceci est une vanne.
Voilà.
Donc ta mère avait plutôt un rapport assez détendu, en tout cas quand tu étais jeune.
Oui, avec son travail, elle aimait bien et tout. Ouais, ouais.
Aujourd'hui, c'est plus complexe.
Okay. Oui. Ouais.
Et donc tu as voulu devenir prof, mais finalement, ça s'est pas fait.
Et en fait, je voulais pas tant que ça être prof pour être prof, je voulais être prof pour faire de la recherche, en fait. Mais bon, il s'avère que pour gagner de l'argent, quand tu fais de la recherche, à moins d'être une superstar, faut être prof, quoi.
Ok.
C'était ça que je voulais faire.
D'accord.
Et au final, je voulais... Alors ça, c'est aussi un truc intéressant. J'y ai pas beaucoup pensé. Mais donc, tu sais, quand tu veux faire une thèse, tu peux avoir un contrat doctoral. Qui est donc un genre de contrat qui est fait entre toi et l'école, l'académie. Qui fait que t'es payé pour écrire ta thèse. C'est pas. Ça a une durée limitée à 3-4 ans, je crois, et c'est grosso modo le SMIC.
Mais. Et les places sont très limitées.
Et les places sont extrêmement limitées, et surtout dans les matières que moi je visais, c'était genre.
Les matières de saltimbanque, quoi.
Un petit peu, c'était en gros, t'avais une place sur 100, à peu près. Donc un truc vraiment dur à avoir. Et donc, voilà. Et en fait, pour moi, c'était inenvisageable de faire une thèse sans contrat doctoral. Alors qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font ça. Mais pour moi, c'était impossible.
Pourquoi tu voulais avoir la sécurité de ces 1000 euros, c'est ça ?
Il fallait, il fallait que je sois payée pour mon travail, quoi.
Ok.
Et je visualisais déjà aussi la galère de devoir me dire, écrire une thèse, c'est un énorme taf. Si en plus en vivant à Paris, si en plus il faut que je fasse des petits boulots à côté pour gagner vite fait de l'argent, pour survivre et avoir à peine le temps d'écrire ma thèse à côté, c'est horrible. Mais j'ai des potes qui ont fait ça et qui ont fait des dépressions horribles. Et du coup, j'avais vraiment conscience de ça et je me disais, c'est absolument impossible que je galère et que je sois pas payée pour du taf, quoi. Donc, j'ai passé deux fois les espèces de demandes, tu vois, pour avoir un contrat doctoral et je l'ai pas eu deux fois. Évidemment, il y avait tellement peu de place. Et la deuxième fois, c'est pas passé loin, donc j'ai eu un sentiment d'injustice énorme, juste parce que au final, j'étais contre une meuf dont sa mère était pote avec un membre du jury, alors que mon dossier, il était excellent. Donc voilà. Et du coup,
j'ai bien de la misère
là, pour le coup. Et du coup, j'ai fait une petite dépression pendant six mois peut-être un peu, parce que quand même plusieurs années de taf pour rien, c'était un peu horrible, mais je voulais pas lâcher. Et donc voilà, et donc là, je me suis résignée à aller bosser dans un bureau. Quoi. C'était horrible. Et j'ai atterri dans une start-up qui était un truc un peu tech. Et j'y suis restée 5 ans. Je suis arrivée dans la boîte, ils étaient 7. Et je suis partie, on était 30.
Ok.
Du coup, j'étais vraiment dans les premières de la boîte. J'étais au comité de direction. Et j'ai fait 3-4 tafs différents.
Ok.
Et voilà.
Et t'avais un chouette salaire ? Et t'avais
un
CDI ?
Alors, pas du tout, au début.
Ok.
À la fin, un peu plus. Mais j'ai beaucoup galéré pour faire monter un petit peu tout ça. Alors qu'à côté, il y avait des devs qui étaient payés, évidemment, une fortune. Hein, je dis pas que c'est pas justifié.
Mais c'est ton père, il s'est planté, désolé. Hein. Si ton père il t'avait dit tu vas devenir dev, t'aurais
c'est
été
ça.
Ultra riche. Hein.
Ça aurait été différent. Et ouais.
Sorry, papa.
Et ouais.
Tu t'es planté.
Ouais.
C'était pas comptable.
J'étais pas comptable non plus, d'ailleurs. Non. Franchement, ah non, ils auraient été bien mal barrés avec moi, d'ailleurs. Mais du coup, voilà. Donc, j'ai été 5 ans dans cette boîte qui a changé de visage complètement. Et c'était en mode levée de fonds, machin, enfin un énorme truc. Et l'argent, c'était une très grosse question aussi dans cette boîte. Mais alors, pour nous faire payer, nous, c'était un peu compliqué. Moi, au début, j'ai été embauchée en plus sur des micmacs. Je devais être freelance au début. Et puis ensuite, période d'essai renouvelée, machin. Enfin, tu vois, des trucs un petit peu comme ça. Et j'étais payée, ouais, le SMIC au début. Et puis à la fin, en fait, j'ai tellement péter des plombs parce que je bossais H24,
ouais.
Que à la fin j'ai été augmentée, mais c'était de toute façon, même au plus haut salaire que j'ai eu là-bas, c'était jamais à la valeur de ce que je faisais, quoi.
T'as l'impression que tu te faisais voler ?
Ah bah oui. Enfin, voler. Ouais, en fait c'était soit...
Il y a un truc d'injustice dans ton rapport au travail.
Ouais.
Non, je sais pas, c'est une question. J'ai bien de la misère, tu vois. En fait, de ce que t'es j'ai l'impression que c'est un job qui t'a épanoui, ou pas ? Enfin, quand tu m'en parles comme ça, je me dis, ok, t'as l'air d'avoir kiffé.
En fait, c'est des fois t'es un peu sous emprise quand t'es dans ces univers-là. Il y avait des trucs un peu pervers et.
Tu veux dire, derrière le côté boîte cool, c'est ça ?
Ouais, ouais, le côté boîte cool, on peut t'encenser devant tout le monde et puis te détruire le lendemain. Enfin, tu vois, des trucs un peu deg. Et en vrai, ça m'a appris des trucs cool. Ça m'a appris aussi énormément à me dépasser dans le travail parce que je faisais des horaires vraiment de malade. Mais bon, c'était des années de ma vie que j'ai passé vraiment à rien faire d'autre que bosser, quoi.
Ok.
Donc, des fois, j'ai un peu un sentiment de Est-ce que mes plus belles années de jeunesse valaient ça, tu vois?
Ah, yes, ok. À ce point?
Ouais. Ah bah oui, oui, oui.
Non, mais
je voyais pas mes potes, tu vois, je faisais vraiment à... Des fois, à 22h, je partais du
oh,
taf,
yes.
quoi.
Ok.
Quand t'es pas payé, tu vois, des mille et des cents, ça fait un peu yèche, quoi.
Ok. Mais il y avait du sens pour toi? Ou alors juste, t'étais...
Dans ce taf?
Ouais. Parce que tu vois, je me dis, ok, tu peux très bien ne pas être très bien payé, travailler beaucoup, mais te dire, ok, j'y trouve quand même quelque chose, quoi, tu vois.
Alors, il y avait un peu de sens, mais c'était pas non plus, tu vois, le truc faramineux. À la fois, j'aimais vraiment mes collègues, et ça, c'est un gros truc de start-up aussi, tu vois, de faire genre, t'es une famille et tout, machin, pour te dissuader d'avoir envie de partir. Mais aussi, il y avait énormément de pression. Alors là, les phrases de mon père, j'ai fait une liste, puis j'aurais pu faire une liste des phrases de mes boss là-bas. Hein, je peux te dire, il fait froid dehors.
Il fait froid dehors?
Ah oui, il fait froid dehors, je peux te dire qu'on l'a entendu.
Ça veut dire qu'en gros, t'es au chaud ici, c'est ça?
C'est ça, ça veut dire que si tu sors, t'es la petite fille aux allumettes, quoi.
Ah.
Il fait froid dehors, bah celle-là, je peux te dire qu'on l'a entendu.
Okay.
Bisous à toutes mes anciennes collègues qui écoutaient cet épisode, je suis sûre. Il fait froid dehors, ouais. Donc ça, c'était un peu une peur qu'on avait, et toutes, parce que j'étais vraiment pas la seule, de quitter ce truc, parce qu'en fait, ils nous disaient, dans les espèces de meetings du lundi matin et tout, à quel point c'était la merde à l'extérieur, et que pour avoir un CDI, c'était pas possible. Et moi, spécialement, ils me disaient, mais derrière, tu te rends pas compte, je reçois 25 mails par jour pour ton poste, quoi.
Ok.
Et du coup, toi, tu...
Ah bah là, il y a papa qui est là,
en plus,
le CDI.
Et mon père, il était très fier que j'ai ce taf, quoi.
Ouais.
Et oui.
Et c'était important pour toi que tu sois aussi en CDI par rapport à l'idée qu'il pouvait avoir de toi et tout à ce moment-là?
Je pense que j'étais contente que mon père soit fier.
Ok. Vous avez pas vu, mais Lucie vient de faire une grimace.
Bah ouais, non, mais c'est, ouais, okay. C'est vrai.
C'est après ça que tu t'es lancé?
Ouais.
À ton compte?
Ouais, ouais.
Okay. Comment t'as fait pour sortir dehors, aller affronter le blizzard et, et la tempête et l'indépendance, quoi, finalement?
Ouais, c'est ça. En fait, il y a eu vraiment le truc en trop. En fait, j'étais en burn-in. Je sais pas si tu vois ce que c'est.
Non.
C'est la phase avant le burn-out.
Ok.
Donc, le burn-out, c'est quand le mal, on va dire, sort.
Ouais.
Out, tu vois, c'est quand t'as un truc qui se manifeste vraiment.
J'ai jamais entendu burn-in dire.
Ouais, c'est toute la phase avant.
Où t'es en train d'accumuler.
En train de chauffer.
Ok, d'accord.
Et moi, j'ai eu une phase de burn-in assez longue, du coup, qui a duré quelques années. Et en fait, j'étais de plus en plus malade. J'ai pas eu ce burn-out où ton corps, il te lâche et un jour, tu peux pas te lever, tu vois. C'était mon rêve que ça m'arrive. C'était mon plus grand rêve.
Ton rêve?
Ah oui, je voulais.
C'est-à-dire que t'étais consciente que t'étais en train de te cramer?
Ah, mais oui.
Bah, tu me dis
et
ça.
Au taf, je leur disais tout le temps.
Okay.
Et ils disaient toujours que je me plaignais pour rien.
Ah, ouais.
Mais en fait, tu vois, tant qu'il n'y a pas un truc médical qui fait qu'un jour, il y a vraiment des médecins qui viennent dire bah, « en fait, elle est à terre et elle ne peut pas », du coup, je continuais.
Okay.
Mais je suis la fille de mon père aussi.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que mon père, il faisait minuit, 6h du mat, tu vois.
J'ai bien de la misère.
Bah oui.
C'est ça?
Ben oui.
Il faut aller jusqu'au bout, quoi.
Ben, pour
no
gagner
pain,
de
no gain.
Ben, c'est ça, pour gagner de l'argent, il faut avoir de la misère. Donc, je suis allée au bout de la misère. et franchement, c'était un peu dur, cette période.
Ouais. Oh putain, ouais. C'est dur, en fait, quand t'as été élevé à... Il faut que tu baisses la tête et que tu fonces. Et en fait, t'as pas mal, machin, de sortir de là. Parce qu'en vrai, t'aurais pu aller voir n'importe quel toubib à ce moment-là. Et dire en fait je suis pas bien et je vais m'effondrer et c'est très possible que le toubib t'aurait pris au sérieux, quoi, tu vois.
Ouais, mais en fait, tu vois, j'avais ce truc. Alors évidemment, j'allais chez le médecin souvent,
parce que t'étais malade,
parce que j'imagine, en fait,
ton corps était en train de te dire
exactement,
ça va pas très bien.
J'ai eu le Covid 5 fois. En plus, je suis asthmatique. Genre, c'est hyper grave, quoi.
Oh, wow.
Ah non, mais c'est horrible. Et en fait, j'étais malade de plus en plus. J'ai eu mes dents de sagesse qui sont sorties à 30 ans, alors que personne n'a eu les dents de sagesse sorties dans la famille.
Ah oui.
Genre vraiment des trucs, genre ton corps il te tabasse, il te dit mais arrête quoi.
Ouais, ok.
Donc vraiment des trucs, et ce qui m'a décidé, En fait, il y a eu un petit peu plusieurs étapes, mais j'ai fait un œdème de couinc dans un train avec mon mec, qui est aujourd'hui mon mari. Il était en face de moi. C'était le jour de son anniv. Il m'a vu me transformer en Elephant Man.
Oui, tu as gonflé, quoi.
Ouais, complètement. Et la gorge et tout. Et.
T'avais mangé un truc.
Pas du tout. On était juste dans un train retour pour Paris. Et c'était juste, en fait, on a fait une batterie de tests avec des super allergologues et tout à Paris. En fait, c'était juste la peur de retourner à Paris et de retourner bosser.
Oh, waouh. Et ça, tu t'es pas arrêté?
Ben là, du coup, si. Okay. En fait, c'est là que je leur ai dit. Okay. Alors, je me suis à moitié arrêtée. Je leur ai dit, il faut que je parte de Paris.
Ah oui. Et malgré tout, garder le CDI.
Voilà.
Ok.
Donc, en fait, je leur ai dit, je vais aller vivre à Nice. Donc, bien loin. Ouais. En me disant, parce que c'est vraiment une ville que je kiffe et tout. Mmh. Et en me disant, bah, peut-être que ça va aller mieux. Et ils ont accepté. Alors qu'ils étaient vraiment très présentéisme et tout. Mmh. Mais j'avais quand même un...
C'était après le Covid pour le coup. Donc il y avait un peu plus de télétravail.
Ouais, mais ils réclamaient vraiment que les gens reviennent au taf, quoi.
Okay.
Et ils avaient même refait la déco du bureau et tout pour que les gens reviennent. Ben écoute, frère, moi je préfère être mon lit. Et du coup, voilà, donc franchement, ils auraient été vraiment dans la merde si j'étais pas là. Mmh. Donc ils ont accepté. Mais j'ai tenu 6 mois à distance quand j'ai compris qu'à Nice, j'étais pas spécialement beaucoup mieux, quoi. Qu'en fait, le problème, c'était ça.
Oui, c'était le travail.
Voilà.
Et donc, t'es sortie dehors et il faisait froid.
Et bah, lancée, du coup, j'étais à Nice, il faisait pas froid du tout.
Yes. Ok, t'as réussi à te lancer.
Et en fait, donc j'ai eu la chance... Merci la France, comme dirait quelqu'un que je connais bien. Merci les ruptures conventionnelles. Parce que là, pour le coup, il y avait vraiment souffrance au travail. J'avais 2 avocates et plusieurs médecins derrière qui me faisaient des paplards et tout en disant
oui,
il y a du sérieux là.
Il faut s'arrêter. Il faut arrêter.
Voilà. Donc, j'ai eu une rupture co qui m'a beaucoup aidée parce que là, pour le coup, bon, c'est quand même pas un truc, c'est pas un CDI. Mais t'as un filet quand même. Donc, c'était acceptable, disons. Et en fait, j'ai juste eu une opportunité un peu géniale. Le premier jour de mon chômage, il y a une nana qui m'a repérée sur Insta, alors que j'étais suivie rien du tout, qui m'a dit « Ouais, j'ai une boîte d'événementiel et j'ai besoin de quelqu'un qui tire les cartes sur un gros festival de musique dans le Sud. » Est-ce que t'as envie de le faire ? C'était mon premier jour de chômage.
Oh, waouh !
Ouais.
Ah ouais, ok.
Et du coup...
C'était le moment de partir.
Ah ouais.
C'est marrant.
C'était un bon alignement des choses, quoi. Et du coup, moi, j'avais jamais fait. Je m'étais jamais fait payer pour tirer les cartes. Je faisais ça gratos, tu vois, comme ça. Et donc là, tout de suite, c'était un truc non seulement où je devais faire payer mon hobby, mais en plus, en professionnel, et je devais faire une facture. Genre, direct.
T'as pas eu besoin d'avoir toute cette phase où tu dois te légitimer en tant que professionnel et que, ok, donc il va falloir que je me fasse payer, c'est quoi mes tarifs, etc. Comment t'as fait pour trouver ton tarif ? Elle t'a donné un budget, c'est ça ? Direct ?
Non, en fait, c'était elle qui décidait.
Okay.
Parce que c'était un peu un truc en accord avec le festival, avec ce qu'elle faisait d'habitude et tout. Et moi, je trouve ça...
Ah, c'est elle. Donc, elle t'a donné un budget. Elle t'a dit, voilà, tu...
Elle m'a dit, en gros, tu prendras les gens qui vont se présenter pour se faire tirer les cartes sur le festival.
OK.
Et c'est, je sais plus comment c'était 30 balles le tirage ou 35,
ah,
un
oui,
truc
OK,
comme
tu
ça.
Faisais payer les gens qui venaient...
Ouais.
OK, c'est pas la meuf qui te rémunérait...
En fait, c'était elle qui prenait la thune.
OK.
Genre, je pense, je dirais, allez, les gens, ils payaient 35. Elle se gardait 5 et elle me filait 30.
D'accord.
Voilà.
Ah oui, donc elle avait... Ok.
Donc elle a tout décidé. Donc en fait, moi, je me suis juste laissée. Mais par contre, j'ai eu 24 heures pour faire mon truc sur l'URSSAF et me faire imprimer des cartes de visite pour pouvoir les distribuer là-bas. Donc en 24 heures, j'ai été en mode Speedy Gonzalez.
C'est trop cool.
Faire.
Et ça t'a mis le pied à l'étrier quelque part, c'est
ça ? Ah bah, direct. Direct.
Ok. Donc finalement, il faisait pas si froid que ça dehors.
C'était le baptême du feu dehors.
Tu m'étonnes. Et j'imagine aussi que ça t'a empêché de tergiverser trop et de te dire, ok, est-ce que je... CDI, pas CDI, finalement, est-ce que c'est une bonne idée ou pas, machin. Ou alors tu t'étais dit, ok, j'ai un an et demi, deux ans devant moi de chômage et je vais en profiter pour monter mon biz.
Alors, déjà, les médecins m'avaient dit, pendant 3 mois, vous ne faites rien. Et quand ils me disaient ça, je disais, oh, ah ouais, grave, c'est mon rêve. Tellement j'étais KO.
Ouais.
Et le premier jour, il y a ça qui m'arrive, quoi. Et du coup, je me suis tiré une carte pour me dire, j'y vais ou j'y vais pas. Je dis oui à la meuf. Et là, c'était un truc genre, c'est vraiment le truc de la vitesse, des opportunités à saisir et tout, machin.
Okay.
Et j'étais là, bon bah, ok, vas-y, let's go. J'ai bien fait.
Bah ouais, j'imagine.
Ouais.
Okay.
Et du coup, j'ai pas voulu me mettre à mon compte. Je me suis mise à mon compte parce que ce truc-là est tombé.
Ah, c'était pas un objectif dans ta vie, c'était
pas du tout.
Ah oui, oui, tu voulais quitter ce boulot.
Oui.
Tu savais pas du tout ce que t'allais faire après.
Pour moi, j'allais chercher un CDI sur Nice, tu vois.
Ah, j'avais pas compris.
Ah ouais, ouais.
Ok, ok. Ah oui, donc c'est vraiment cette personne qui t'a dit, ok, t'as une opportunité professionnelle là.
Ouais, ouais. Et
incroyable.
Moi, mais vraiment, moi, j'avais dans mon esprit le fait de se dire, il faut surtout jamais se mettre à son compte. C'est la galère. Alors attends, mon père, avec son truc foireux là, qu'il n'avait pas réussi, toi, qui te payais pas au début,
ah oui.
Mon premier taf, moi qui a envie d'être, tu vois, d'avoir l'argent de mes œufs.
Ouais.
Tu te rends compte, te dire, bah en fait, le gars il monte une boîte et il se paye pas, bah forcément ça fait pas envie, tu vois, tu te dis pas je vais monter ma boîte. Et en plus, évidemment, après j'ai été...
Le pire rôle modèle.
Mais tu vois, c'était cohérent avec mon père.
Ouais.
Et je dis pas que c'était la même chose, mais bon, il y avait un peu un truc de, bah si t'es à ton compte, tu gagnes pas d'argent, quoi. Et après, j'étais dans cette espèce de start-up avec des trucs de levée de fonds. Mais franchement, mes deux, parce qu'ils étaient deux associés, les deux, ils étaient très riches. Pour le coup, eux, de base, ils auraient même pas eu besoin de taffer de leur vie, tu vois.
Okay.
Mais du coup, ils se payaient pas.
Ah oui.
Parce qu'ils avaient pas besoin, en fait.
Ouais.
Donc, tu vois, j'ai toujours été vraiment avec des trucs de... T'es à ton compte, tu bosses pas, donc ça n'a jamais effleuré mon esprit.
C'est pas t'es à ton compte, tu bosses pas. T'es à ton
compte,
t'es
à ton compte,
tu bosses comme un damné.
Tu bosses comme un taré et tu n'es pas payé.
Exactement.
Ouais.
En tout cas, tu te payes pas.
Ouais.
Parce qu'il y a aussi ce truc-là, c'est pas juste t'es pas payé. Parce que si j'ai bien compris, l'un des trucs qui est complexe pour toi aussi, c'est que j'ai un peu l'impression que dans ton parcours, t'as la sensation de pas avoir été payé à ta juste valeur en tant que CDI, etc. Et je crois d'ailleurs que c'est l'un des trucs qui fait qu'on s'est pris la tête. Je t'avoue que je me souviens plus du tout
de
ce qui s'est passé entre nous, mais je crois que j'avais tellement peur de te payer que il y a un moment donné, je sais même plus.
Ouais,
tu t'en souviens sans doute mieux que moi.
Ouais, je m'en rappelle, ouais.
Vas-y, raconte.
Bah, en fait, c'était, donc, j'avais un CDD de 1 an et a priori, on allait le renouveler puisque ça se passait bien.
Ok.
Et...
je sais plus.
Tu te rappelles pas si tu voulais me garder? Il y avait...
En fait, il faut expliquer un peu aux gens, mais en gros, il y a vraiment eu deux vies dans la vie de la boîte de Mademoiselle. C'est qu'il y a eu la vie avant Paris. Et en gros, entre 2005 et 2012 à peu près. Donc toi, t'étais dans cette période-là, t'étais 2010, hein, c'est ça?
Ouais.
Et en fait, pour moi, dans cette période de la boîte, ça n'était qu'une galère. Alors déjà, je faisais mes armes managériales et ça, c'était complexe. Et surtout, en fait, c'était très compliqué financièrement. La boîte, elle était hyper ricrac en termes de sous, etc. Et en fait, la boîte a commencé à grandir, à exploser une fois que j'ai ouvert les bureaux à Paris. Mais je t'avoue que autant je me souviens très bien des années parisiennes parce qu'il y avait un truc où il s'est passé plein de choses, etc. Autant aujourd'hui, tu vois, quand je reviens sur les années lilloises, il y a plein de choses que j'ai oubliées parce qu'en fait, c'était dur et je crois que j'étais ultra dissocié d'une manière générale parce que c'était tellement complexe que bah, déjà, j'avais la trouille en permanence.
Ouais. Mais ça se comprend.
La peur au ventre. Maintenant, quand j'y repense, vraiment, je me dis, mais en fait, j'ai vécu avec la trouille de ne pas réussir à payer les gens, etc., tout le temps, quoi.
Mais ça se comprend grave, hein.
Donc,
j'aurais grave la trouille aussi.
Ouais, mais enfin, c'est ouf, en fait, tu vois, avec le recul, à quel point je sais que j'ai fait... En fait, j'étais un peu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, quoi. Tu vois, j'étais genre un gros balourd. Et en fait, il y a plein de gens que j'ai dû cogner. Toi, t'étais une petite tasse fragile, tu vois. Boum, un coup de cul et boum, tu vois. Je me rends bien compte. Mais je sais pas du tout de ce fait-là ce qui s'est passé. Mais sans doute, c'était pas malin, quoi.
Ouais, ben non, c'était ça. C'était, il était question qu'on renouvelle mon contrat. Et il fallait juste se mettre d'accord sur le montant. Et en fait, toi, tu devais attendre des réponses de quelque chose, j'imagine. Enfin, c'est ce que tu m'avais dit. Mmh. Et c'était pendant la période de l'été, à peu près. Et en gros, je sais pas, tu m'as pas répondu pendant plus de 2 mois. Et pendant l'été, quoi. Et en gros, on était en septembre. Et moi, fallait que je sache, tu vois, si je devais chercher un petit boulot, si j'allais avoir assez. Vivant à Paris, fallait que je paye mon loyer et tout. Donc, en fait, je voulais... Bah, c'était toujours mon truc de sécurité. En fait, fallait que je sache combien j'allais avoir. Même si c'était plus, même si c'était moins. Mais fallait que je budgète mon appart, mon truc. Enfin, tu vois. Et au final... ça s'est c'est terminé un peu comme ça. Tu n'as pas pu me répondre à temps. Et il y a eu tout un truc de « tu veux gagner plus, machin ». Et puis, je pense que j'avais comparé avec une autre meuf ce qu'elle gagnait plus que moi. Et tu m'avais dit « mais tu peux pas te comparer à une... » Je sais plus qui c'était. « À une telle et tout ». Et du coup, il y avait eu ce truc-là.
Incroyable.
Ouais.
Moi, je suis désolé.
Ben non, mais moi aussi.
Parce que... Bah en fait, je t'avoue que je sais plus. C'est dur de me souvenir de ce qui se passait, mais en fait la boîte était tellement tendue que je savais pas.
Bah oui.
C'était compliqué pour moi de me dire ok, bah je vais renouveler, j'imagine ton CDD ou de le transformer en CDI.
Ouais. Et puis c'était spécial parce que
j'avais peur du conflit en plus à l'époque.
Ah oui.
Je crois qu'en fait aujourd'hui j'ai un truc très clair qui serait bon. Alors voilà, en fait voilà, je sais pas du tout où j'en suis. Et en fait. Tu peux partir du principe que soit en fait t'attends le mois de septembre, soit en fait si t'as pas envie d'attendre le mois de septembre, en fait je te libère aujourd'hui, mais c'est ok, mais au moins t'es au courant, quoi, tu vois, plutôt que de foutre les cartes sur les tables et de dire les cartes, de foutre les cartes sur les tables et de dire voilà moi où j'en suis. Je crois qu'avant j'étais plutôt dans un truc de putain je sais pas du tout, et en fait si je lui dis que non elle va me prendre pour un branle-couille, alors que aujourd'hui j'ai plus aucun problème à dire je sais pas. Je sais pas et je suis désolé parce qu'en fait je sais même plus ce qui s'est passé, mais sans doute à l'époque il y avait une régie extérieure, en fait le chiffre d'affaires dépendait tellement pas de moi que c'était un bordel.
C'est super compliqué.
Oui.
Mais même à l'époque je m'en doutais aussi bien sûr que c'était pas juste toi Fabrice Florent qui allait décider de tout et c'est clair. Mais
j'aurais pu être plus clair. Et en fait je crois aussi que c'est un truc qu'on peut dire aux jeunes chefs d'entreprise d'une manière générale, et puis même aux gens qui payent des gens, en fait, même si c'est des freelances, etc. Je crois toujours que c'est cool de venir dire, je sais pas. Et en fait, là, au moins la personne, elle est au courant.
Mais bien sûr.
T'es pas au courant, et en fait, c'est pas très grave de pas savoir.
Bah oui, c'est clair. Ça sert pour les cartes aussi.
Des
fois, de dire, je sais pas.
Ah oui. Quand tu tires des cartes, tu veux dire, parfois tu dis,
ouais.
C'est ça.
Ouais, okay. Ça peut arriver.
Que les cartes, elles racontent.
non, mais c'est vrai, on peut pas savoir toujours tout et c'est pas grave, quoi. Enfin, c'est humain, quoi, c'est normal. Mais du coup, voilà, ouais.
Ok, ça. Donc tu t'es lancé. Ouais, bah oui, écoute, navré.
Bah non, hein, t'inquiète. Mais du coup, voilà, tout ça expliquait aussi le fait que me mettre à mon compte, c'était pas mon rêve, toi. Tu vois.
C'est incroyable.
Ouais.
Et donc ça fait 3 ans ?
Là, ça fait 3 ans.
Donc ça fait un petit moment que t'as plus le chômage, là ?
Non, parce qu'en fait, il s'étale. En fait,
c'est le nouveau système.
Oui, c'est cool.
Oui.
Et en fait, comme j'ai malgré tout plutôt bien gagné depuis le début, en fait, ça s'étale sur le temps.
Donc tu gagnes à chaque fois que tu gagnes de l'argent, ton chômage recule finalement, c'est ça ?
Exactement.
C'est-à-dire que ton chômage est prolongé.
C'est pas ad vitam aeternam, je crois que la limite c'est 5 ans.
OK.
Mais quand même, c'est très très chouette quoi.
Vive la France.
Ouais. C'est-à-dire que là par exemple, si un mois je décide de pas bosser et de faire zéro, j'ai un chômage sur mon mois full, tu vois.
C'est incroyable.
C'est trop génial. Mmh. C'est vraiment une aide incroyable. Mais
donc tu as toujours ton filet de sécurité qui est toujours
j'ai
là.
J'ai toujours mon filet de sécurité qui est voilà. C'est vrai que des fois je réfléchis au moment où je l'aurai plus puisque bien sûr ça arrivera. Mais non, franchement ça marche bien, donc je suis très contente.
Bah bravo hein.
Bah merci, c'est cool.
Et qu'est-ce qu'il en dit ton père alors?
C'est une bonne question. Alors mon père, il reste un peu évasif sur le sujet. Alors déjà, en plus, t'as le fait d'être à ton compte qui est déjà un peu moyen, mais en plus sur un truc comme ça, quoi.
Tu veux dire un peu ésotérique
Bah oui.
Alors que le daron,
je suis pas
il
comptable
est,
à mon compte, tu vois.
DRH, quoi.
Ouais.
C'est ça.
C'est ça. Mais bon, après, mon frère, il est acteur, il y en a un qui...
Ah oui, ben, tu c'est vois. Que des saltimbanques,
ouais.
Des troubadours dans la famille.
Ouais. Ok. Et on risquait vraiment aucun d'entre nous de mettre un tailleur ou un costard et d'aller au bureau le matin, quoi. C'était impossible.
Ok.
Donc, disons qu'il m'en parle pas trop. Il me fait pas chier avec ça du tout parce que il voit que ça marche. Donc, il dit bon, c'est bien. Voilà.
Sans plus.
Ouais.
Ok.
Pas c'est génial, je suis fière de toi, ma fille. Non. Mais après, il l'est peut-être sans le dire. Qui sait. Mais
qui sait. Ouais. Moi, je suis télépathe dans la tête de mon daron.
Ouais. Mais ouais.
Ok. Et t'as la sensation d'avoir réussi un peu à dépasser ce truc de ok, je suis obligé de travailler dur pour gagner de l'argent. T'as
ça,
pas l'air.
Ça, c'est compliqué.
Ok.
Ouais, c'est compliqué. Mais c'est un chemin. Je pense que j'y arrive entre guillemets de mieux en mieux. Ça va aussi avec le fait de se pricer justement.
Donc de fixer tes prix.
Ouais, voilà.
Ça a été dur ça?
C'est pas facile. Ouais, c'est pas très facile. Ben t'augmentes un peu avec le temps forcément, en fonction de entre guillemets ton expertise et puis de l'offre et de la demande un petit peu. Mais j'avoue que aujourd'hui quand je mets des créneaux en ligne, ils sont pris dans la journée quoi. Genre, j'ai un mois réservé en 24 heures.
Oh, waouh!
Ouais.
T'es une star?
Bah, un peu. Non, je rigole.
Dit-elle.
Non.
Très modestement.
Non, mais enfin, je sais pas.
Cool, en tout cas.
Bah, franchement, oui, c'est vraiment très cool.
En termes de filet de sécurité, c'est pas mal.
Oui, c'est vraiment très, très cool. C'est vraiment très cool.
Est-ce que t'as la sensation que t'es pas assez cher de ce fait?
Non. Okay. Je me verrais pas trop mettre plus pour le moment.
Okay. C'est juste prix pour toi?
Pour moi, c'est pas mal. Ouais,
c'est juste prix ou pas?
Ouais.
Quand tu dis c'est pas mal.
Ouais. Quand je me verrai pas mettre plus.
Ok.
Et quand je bosse, je me sens pas lésée, tu vois. Je me dis pas, franchement, ce que j'ai rendu, ça vaut vachement plus que. Non, okay. Je trouve que c'est assez.
Ce qui avait l'air d'être plutôt un mood par rapport à tes expériences professionnelles avant, quoi.
Mais bien sûr, mais c'est là
le biais de la misère.
C'est ça, mais c'est ça aussi le grand truc de fixer tes tarifs toi-même. Et de pouvoir les moduler un peu comme tu veux, entre guillemets. Parce que tu dois pas aller demander à quelqu'un. Moi, c'est le trauma, il est là un peu. Hein.
C'est-à-dire?
Bah, d'aller demander à quelqu'un de t'augmenter, tu vois.
Ah oui, de t'augmenter. Parce que pour le coup, tu fais payer quand même les gens. Donc, il y a quand même un truc où tu viens leur demander de l'argent, quoi.
Oui, bien sûr. Mais j'ai eu du bol. Des fois, j'ai même doublé mes prix à un moment.
Ouais.
Mais j'ai jamais eu autant de réservations que depuis que j'ai doublé mes prix.
Bien joué. Tu sais pourquoi?
Ben, parce que tu t'affirmes un peu la valeur de ce que tu fais, quoi.
Parce qu'en fait, les gens n'achètent que de la valeur perçue. C'est-à-dire qu'ils achètent la valeur qu'ils perçoivent. T'as doublé tes prix et ça t'a fait quoi quand t'as doublé tes prix et que t'as eu plein de réservations? Tu t'es dit, bah dis donc.
Ouais, j'étais vraiment fière, quoi. Je me suis dit, c'est vraiment super cool. Ça veut dire que les gens qui viennent, ils ont vraiment envie de venir. Et il y a des gens qui reviennent aussi beaucoup, depuis 3 ans. Et ça, c'est trop bien. Ça fait vraiment kiffer.
Ok.
Ouais.
Bah bravo, hein.
Bah merci, c'est
trop chouette. Est-ce qu'il y a autre chose dont on n'a pas parlé?
Bon, il y a plein de choses, mais je sais pas. Je pense qu'on a dit pas mal de choses déjà.
Il y a un truc sur lequel je sais pas...
Non, bah le petit truc qui peut être compliqué, enfin c'est aussi un peu la dernière question que tu avais posée, c'est un peu relié, c'est aussi tout le taf que tu fais un peu gratuitement quoi, autour.
C'est-à-dire?
Ben, c'est-à-dire par exemple un peu ta com et Genre quand tu fais de la création de contenu, par exemple, et que c'est total free, mais ça fait partie de ce qui fait que les gens te découvrent et viennent t'acheter des trucs après. Mais c'est vrai que ça prend grave de temps. Et des fois, t'as l'impression que c'est des journées un peu gratos, quoi.
Ah ouais, ok. T'as ça en tête ?
Ouais.
Ok, t'as en tête que, en fait, quand tu fais de la création de contenu, parce que j'imagine que c'est ça que tu fais, tu crées du contenu pour que les gens puissent te découvrir sur Internet, etc. T'as en tête, c'est des journées gratuites.
Ouais, c'est des trucs que tu donnes.
Ok. C'est incroyable, j'ai pas du tout cette sensation.
Ah ouais ? Mais moi, je kiffe donner. Je trouve ça vraiment cool de créer des trucs gratuits. Mais c'est vrai que pour moi, il y a toujours un peu ce truc qui me titille à l'intérieur de me dire... Enfin, j'y pense, je l'ai des fois en tête, quoi.
Ok.
Ben, en fait, quand tu produis des choses et que tu sais que ça vaut tant, genre par exemple, je sais pas, ce truc à 150 balles, ça me prend 3 heures.
Ouais.
Par jour, je peux en faire 3.
Ouais.
Donc du coup, j'ai passé 4 jours à monter une vidéo, j'aurais pu gagner X.
Ah ouais, tu ah ok.
C'est un peu fucked
up. Tu calcules comme... Non, enfin, encore une fois, ça fait 2 fois que tu me demandes ça. non, je suis juste en train d'essayer de comprendre comment tu calcules et comment tu fonctionnes, quoi. Tu vois, c'est trop intéressant. Bah non, mais c'est cool aussi. Ça veut dire que dans ta tête, t'as en permanence, en gros, combien tu dois aller chercher par jour, c'est ça ?
Pas par jour, mais pour optimiser à mort, enfin, tu vois, mon temps et mon argent.
Ok.
Voilà.
Ok.
Bah en plus, surtout quand tu sais, entre guillemets, que quand tu mets des trucs en ligne, ils sont tout de suite tous réservés, bah tu te dis, bah en fait, je pourrais avoir beaucoup plus.
Et ouais. Et pourquoi t'en mets pas plus ?
Ben, parce que je pourrais pas.
Ok. D'accord.
Ça me boufferait trop d'énergie, déjà. Et en plus...
Ou tu pourrais doubler tes tarifs. Encore.
Je trouverais que ça ferait trop et je serais pas cliente moi-même, je pense, okay. De payer aussi cher, tu vois, un truc.
D'accord.
Donc, mais ouais.
C'est intéressant, hein ?
Je sais pas.
Mais c'est intéressant, ce truc, par rapport au fait que tu donnes gratuitement. Tu vois, moi, j'ai tellement cette... habitude de donner du contenu gratuit, tu vois, que c'est devenu basique pour moi et que le vrai truc compliqué, ça a été de demander de l'argent aux gens. D'ailleurs, j'en profite pour le dire, n'hésitez pas à donner de l'argent sur Patreon, à m'envoyer des sous, aussi si mon podcast vous aide.
N'hésitez pas.
Mais c'est très drôle que t'aies... Enfin, tu vois, tu m'ouvres vraiment une porte que j'avais en tête.
Ah, cool. Enfin, je sais pas si c'est cool.
Si, c'est intéressant, en fait, que tu le vois comme ça.
Ouais.
Parce qu'en fait, pour moi, c'est tellement la base de mon métier de créer du contenu et en fait de faire en sorte que les gens puissent y avoir accès gratos que je le vois pas comme ok, c'est de l'argent, c'est du travail gratuit quoi. C'est trop intéressant.
Mais moi, j'ai toujours eu des blogs depuis que je suis au collège, tu vois. Et donc, j'ai toujours aimé créer des trucs, prendre des photos, faire des vidéos, écrire des trucs. Enfin, d'ailleurs, chez Mademoiselle, j'ai écrit des articles et qui n'étaient pas. Qui n'était pas payé, enfin, j'étais pas payée pour ça. Mais ça me faisait vraiment trop plaisir de créer des trucs. Sauf que ces 5 ans en start-up, ben, c'était mon taf, la création de contenu. Et en fait, quand tu t'es payé pour ça et qu'après, tu te mets à ton compte et que tu donnes énormément en création de contenu et que tu n'es plus payé pour ça, ça fait bizarre.
Ah oui, mais tu pourrais te faire un auto-trick-count alors finalement.
Mais sur base de quoi ?
Bah, où tu t'auto-facturerais à toi le temps que tu passes à créer ton contenu sur ton activité de tarot.
Ouais, c'est ça.
Qu'est-ce qu'on en pense ? Pour pouvoir tout aligner.
Ouais, un peu chelou quand même.
Est-ce que c'est pas aussi chelou que de foutre les sardines de ton mec dans son truc hein ? Je ne suis pas sûr. Non, mais en fait, pour moi, c'est un peu la même logique, tu vois.
Ah ouais.
Peut-être que les gens ne seront pas d'accord avec moi, mais moi, je vois ça un peu pareil.
Ouais, ouais.
Bah, oui. Finalement, tu es une seule personne, tout comme tu peux voir le couple comme une entité aussi.
C'est intéressant comme parallèle.
I don't know.
Les petits trucs problématiques qui se recoupent. Ouais, ouais, c'est clair, possible. Hein.
Bon, en tout cas, je te souhaite bien du plaisir. à travailler, n'est-ce pas, pour aller contre le bien de la misère, tu vois, de, du papa.
Ouais.
Parce que j'ai l'impression que c'est ça aussi, c'est que tu as trouvé une forme de plaisir par rapport au travail.
Oui, c'est ça. Ouais, ouais.
Qui n'est pas forcément un truc qu'on t'a légué, quoi.
Oui, oui, oui. Et c'est vrai que l'obsession, c'est vraiment de... Et c'est pour ça que je fais tant, entre guillemets, de création de contenu. Même si c'est pas payé, c'est parce que ça me fait plaisir. Et que j'ai besoin d'avoir un truc qui n'est pas du travail et de l'injecter dans mon planning.
Trop bien.
Ouais.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu le vois comme du plaisir, mais tu es aussi capable de dire à côté, c'est du travail gratuit.
Ouais.
Bah, désolé, t'es pas au bon endroit. Tu vois, si tu le vois comme du travail gratuit,
ouais, ouais, ouais.
Tu peux aussi le voir comme, ok, ça, c'est ma zone de plaisir.
Ouais, mais c'est du travail qui fait plaisir.
Bah oui, parce qu'en fait, le travail n'est pas obligé d'être de la misère.
De la misère, et ouais.
Incroyable ou pas ?
Ouais, incroyable.
C'est marrant parce que ma psy, quand j'ai créé Histoire de Daron, en fait, avant de créer Histoire de Daron, ma psy m'a dit, ok, t'es vraiment dans la merde, là, j'étais dans le dur. En fait, elle m'a dit, t'as besoin d'aller trouver, d'aller remplir ton puits. Parce que, en fait, ton puits, il est à sec, là. Qu'est-ce que tu viens mettre dans ton puits pour le remplir ? Et tu vois, l'un des trucs que je trouvais cool, c'était de créer ce podcast, de reprendre un podcast tout seul, de trouver une vraie zone de plaisir dans laquelle j'avais plus de plaisir dans mon travail du tout à un moment.
Ah ouais.
Et en fait, je trouve ça intéressant comme... c'est quoi, en fait, qu'est-ce que tu vas utiliser toi pour remplir ton puits ? Bah là, typiquement, c'est la création de contenu que tu fais en rapport avec ton job, en rapport avec ton activité en plus. Mais effectivement, mais t'es pas obligé de le voir comme comme du travail gratuit, quoi.
Ouais, ouais, c'est ça. Mais c'est un truc de, je pense, ces 5 années que je dois un peu dépoussiérer. Et du fait de... tu te payeras ça avec l'argent de tes œufs, c'est un peu de genre...
Cette expression.
Mais en fait, tu vois, les œufs, ça doit te rapporter de l'argent, en fait. Et du coup, quand un truc est un peu un truc qui demande du temps et de l'effort, forcément, tu dois avoir des œufs derrière, quoi.
Incroyable.
C'est un gros... Enfin, tu vois, c'est un truc qui est ancré depuis super longtemps, quoi.
Bravo, en tout cas, parce que j'ai l'impression que t'es sur le chemin, quoi. C'est trop bien.
J'essaye, ouais. Ouais, parce que sinon, ça pourrit un peu la life, quand même.
Oui. Je suis à peu près sûr que ton père, sans J'ai bien de la misère, il aurait vécu plus sereinement, quoi.
Ah oui, oui, c'est sûr. Là, c'est sa dernière année de taf. Après, et il a très, très hâte.
Après, il va devoir... comment je fais pour me réinventer ?
Oui.
Sans avoir de la misère tous les jours, quoi.
Ouais.
Le vide. Oh putain.
Peut-être qu'il trouvera des moyens d'avoir du plaisir.
C'est tout ce que je lui souhaite.
C'est clair.
Et c'est tout ce que je te souhaite également. Merci beaucoup, Anoucy.
Je te souhaite aussi.
Je mettrai un lien.
Ouais,
Si les gens veulent aller cliquer pour réserver. Attention, Anoucy est très, très demandée. Non, mais c'est vrai.
Voilà, le tarot céleste, Instagram et YouTube.
Je mettrai un lien. Yes. Merci beaucoup.
Merci à toi, c'était trop cool.
Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.